C'est bon, Pedro, je peux y aller. Tu me feras signe quand c'est bon. Bien, déjà bonjour à tous. Je vous ai un peu évité aujourd'hui parce que je suis fiévreux, donc j'ai préféré garder mes virus pour moi. Et je le ferai encore à la sortie, mais je vous salue fraternellement. C'est bien, je vois que tout le monde regarde en l'air. Qu'est-ce qu'on voit? On voit le... rien? C'est bon. Qu'est-ce qu'on voit là? Je vais juste voir quelle est la diapositive. D'accord. Bien, la dernière fois que j'ai eu le plaisir de prêcher devant vous, j'avais choisi de le faire à partir de textes dans le livre... Il faut que je bouge un peu. Ça va mieux, André ? D'accord. Dans le livre des Actes. Et alors aujourd'hui encore, le chapitre 12 des Actes, me semble-t-il, s'est imposé à moi. Et je vais essayer de donner un coup de projecteur sur ce chapitre 12 des Actes. Ça a bougé ? Ah d'accord. Bon, écoutez, si tu veux le... piloter les diapos de... Tu peux faire avancer ou tu as la main? D'accord, très bien. Alors, ce que nous allons lire se situe aux environs de 45 après Jésus-Christ, c'est-à-dire un peu plus de 10 ans après la mort de Jésus. Et le chapitre 12, eh bien, c'est un chapitre qui se situe encore dans une période de persécution. Je vais lire avec vous les quatre premiers versets. Vers la même époque, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église de Jérusalem. Il fit tuer par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain, c'est-à-dire la semaine qui suit la Pâque. Lorsqu'il eut arrêté Pierre, il le fit mettre en prison et le plaça sous la garde de quatre escouades de quatre soldats, chacune, 16 soldats, on y reviendra. Il voulait le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Alors, le Nouveau Testament mentionne quatre personnes qui s'appellent Jacques. Et celui dont il est question ici, c'est l'apôtre Jacques, c'est-à-dire le frère de l'apôtre Jean. Tous les deux fils, vous avez dû rencontrer ça, d'un certain Zébédée. Et effectivement, Hérode Agrippa Ier le fit mourir, probablement en l'an 44 après Jésus-Christ. Et il fut donc le premier apôtre qui scella de son témoignage de son sang. Le premier apôtre. Il y a eu Étienne précédemment, mais parmi les apôtres, ce fut le premier. Alors, au cours des années qui précèdent cette époque-là, l'Église avait été déjà largement persécutée. Acte 4 raconte comment Pierre et Jean avaient été arrêtés, emprisonnés, traduits devant le Grand Conseil, interdits d'enseigner au nom de Jésus. Acte 5 raconte comment les apôtres, à leur tour, avaient été arrêtés, incarcérés, délivrés par un ange, arrêtés de nouveau, relâchés après avoir été battus. Actes 6 et 7 racontent comment Étienne a été traduit devant le Grand Conseil et puis tué à coups de pierre. Et le début d'acte 8 raconte qu'une violente persécution se déchaîna contre l'église de Jérusalem et que tous les croyants se dispersèrent vers la Judée et la Samarie, à l'exception des apôtres qui restèrent à Jérusalem. Nordine a parlé de ces événements dimanche dernier. Le sujet a été choisi, je me suis dit, va-t-il parler d'acte 12 ? Non, il s'est arrêté juste un peu avant. Alors il me semble que toutes ces persécutions que je viens d'énumérer avaient toutes été, sauf erreur de ma part, déclenchées par les juifs religieux qui entouraient le grand prêtre, et notamment ceux qui siégeaient dans ce qui est appelé le Grand Conseil. En acte 12, ce matin, Changement important, à mon avis, ce n'est plus le pouvoir religieux qui déclenche la persécution, mais c'est le pouvoir politique incarné par Hérode qui agit ainsi pour faire plaisir aux Juifs. Alors, j'ouvre une courte parenthèse. Je ne sais pas si la diapo marche. Si elle la passe, je saute ce passage. Il y a une diapositive, c'est une courte parenthèse historique qui nous rappelle qu'il y a 4 rois nommés Hérode. Alors, Hérode le Grand, je les cite parce que on les connaît, on les voit au cours du Nouveau Testament. C'est lui qui a fait massacrer tous les nouveau-nés de Bethléem à la naissance de Jésus. C'est lui aussi qui, pour plaire aux Juifs, a pris l'initiative de faire rebâtir le temple de Jérusalem. C'est sous son règne qu'on a commencé à le rebâtir. Il y a ensuite Hérode le Tétrarque. Une tétrarchie, en gros, c'est une région. Il s'appelle aussi Hérode Antipas. C'est le fils du précédent. Là, on est dans une dynastie. C'est lui qui a fait mettre à mort Jean-Baptiste. Et c'est lui qui était présent à Jérusalem au moment de la crucifixion de Jésus. Il y en a un troisième qui s'appelle, de son nom complet, Hérode Agrippa Ier. C'est le petit-fils d'Hérode le Grand et le neveu du précédent. Eh bien, c'est lui dont il est question d'Acte 12. Et puis, il y en a un quatrième qu'on connaît sous le nom d'Hérode Agrippa II. On l'appelle Agrippa dans les Actes, souvent. C'est le fils du précédent, encore. Et c'est, si vous vous souvenez, celui que Paul rencontra alors qu'il était prisonnier dans la ville de Césarée, juste avant qu'il ne parte pour Rome pour y être jugé par l'empereur César. Bon, fin de parenthèse, c'est pas capital ce qu'on vient de dire. Et donc, à partir de maintenant, j'annonce 3 parties. Et nous allons aborder la première partie, donc on peut lancer une diapo. Donc la première partie s'appuie sur 5 ou 6 versets que je vais vous lire à partir du verset 5. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison. Mais l'Église priait ardemment Dieu en sa faveur. Or, la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut et la cellule fut inondée de lumière. L'ange toucha Pierre au côté pour le réveiller. « Lève-toi vite !» lui dit-il. Au même instant, les chaînes lui tombèrent des poignets. « Allons !» poursuivit l'ange. « Mets ta ceinture, attache tes sandales. » Pierre obéit. « Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau, suis-moi. » Pierre le suivit et sortit, sans même se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde, puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. Celle-ci s'ouvrit toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, et soudain, l'ange le quitta. Pierre, est en prison, solidement gardé. L'Église, elle, est en prière. C'est la nuit qui précède la comparution de Pierre. Et un événement soudain survient. Tout à coup apparaît un ange. La cellule est inondée de lumière. Les chaînes qui entravaient Pierre tombent. L'ange donne à Pierre quelques ordres, bref, précis. Les voilà partis dans le dédale de la prison. Ils passent un premier poste de garde, un deuxième. Ils sont devant la porte. La porte s'ouvre toute seule. Les voilà dans la rue et l'ange disparaît aussi rapidement qu'il était apparu. À quoi venons-nous d'assister ? Reprenons, c'est un clin d'œil, le vocabulaire à la mode pour décrire certaines opérations militaires millimétrées. Nous venons d'assister à l'exfiltration de Pierre hors de la prison, exfiltration réalisée très rapidement et avec une précision, comme on dit à la télévision, chirurgicale. Et dans le contexte de la foi, nous venons d'assister à une délivrance miraculeuse réalisé directement par un ange du Seigneur, qui a fait soudainement irruption dans la vie de Pierre à un moment où il était dans une situation difficile qui aurait pu mettre sa vie en péril. Jacques, lui, était mort. Pierre aurait pu mourir aussi dans les mêmes circonstances. Alors ce texte nous renvoie à la toute-puissance de Dieu, qui est au-dessus des dispositions humaines les plus complexes. Quelle est la part de Pierre dans cette délivrance ? On peut dire qu'elle est faible. Il reçoit des ordres de l'ange. Ah, il obéit. Il suit l'ange qui lui ouvre le chemin. Tout se passe comme si Pierre était le spectateur extérieur de sa propre délivrance. Au point que, avant de sortir de la prison, il ne réalise pas que tout ce que fait l'ange est réel, et il croit même avoir une vision. Alors ce récit est extraordinaire. Il sort de l'ordinaire, tellement il est fort, et pas seulement à cause de l'intervention surnaturelle de l'ange. De ce récit, que pouvons-nous retenir pour nous ? D'abord, que Dieu n'a pas de limite dans sa puissance, et qu'il est, comme je l'ai dit, capable de mettre en œuvre des solutions qui dépassent même notre compréhension immédiate et dans des circonstances exceptionnelles. De telles manifestations extraordinaires de la puissance de Dieu font partie du domaine de notre foi. Et nous devons être prêts à être spectateurs, comme Pierre, de délivrances aussi extraordinaires et aussi spectaculaire que celle de Pierre. Après tout, Matthieu 17, 20 nous dit que si nous avions de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, nous pourrions commander à cette montagne « Déplace-toi d'ici jusque là-bas » et elle le ferait. « Rien ne vous serait impossible », ajoute le texte. Alors, j'entends d'ici vos remarques intérieures, dans la mesure où nous ne connaîtrons peut-être pas des expériences d'une telle échelle dans nos vies personnelles. J'entends ces remarques parce que je les partage. Mais, si nous ne connaîtrons probablement pas de telles expériences à une telle échelle dans nos vies personnelles, cela n'enlève rien à la puissance de Dieu, lequel demeure identique à lui-même, hier, aujourd'hui et éternellement. De ce récit, nous devons retenir une exhortation à croire à la toute-puissance de Dieu dans nos vies, en toutes circonstances, ordinaires ou extraordinaires, ici, à Thonon-les-Bains en 2019, et aussi dans les années qui viennent. Ce texte nous concerne. Il doit nous permettre d'exercer notre foi dans les circonstances qui sont les nôtres, individuellement, en famille, en église, sans que nous mettions des limites à la toute-puissance de notre Dieu, et sans oublier que la part de Pierre, et donc la nôtre aussi, est simplement d'obéir à Dieu pour qu'il puisse manifester sa toute-puissance sans limite. Nous abordons la deuxième partie. Cette deuxième partie s'appuie sur les versets 11 à 17 que je vais vous lire. Alors seulement, donc on a laissé Pierre dehors dans la rue tout seul, l'ange étant reparti. Alors seulement Pierre reprit ses esprits et se dit « Ah, maintenant je le vois bien ». C'est vrai, le Seigneur a envoyé son ange et m'a délivré des mains d'Hérode et de tout le mal que voulait me faire le peuple juif. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. C'est l'évangéliste Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Il frappa au battant de la porte. Une jeune servante appelée Rode s'approcha et demanda qui il était. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer « C'est Pierre, il est là, dehors, devant la porte !»« Tu es folle !» lui dirent-ils. Mais elle n'en démordait pas. « Alors, c'est son ange, » dirent-ils. Et pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent, le virent et restèrent tout étonnés. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. Il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta « Fais savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. » Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Pierre reprend ses esprits. Il réalise que ce qui lui est arrivé n'est pas une vision, mais il se situe bien dans la vie réelle. Alors que va-t-il faire ? Il réfléchit, dit le texte. Et comme nous, parce que nous avons lu le verset 5, il se souvient que l'Église priait ardemment en sa faveur. Alors, il se dirige donc vers le lieu de prière, vers la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc, maison dont il est dit qu'un assez grand nombre de frères s'y réunissaient. Alors, revenons au texte. Se déroule alors un petit épisode que personnellement je trouve assez amusant, au centre duquel se trouve une jeune servante appelée Rode. Alors Rode, elle reconnaît la voix de Pierre là, qui tambourine à la porte, elle reconnaît la voix de Pierre et elle en est toute joyeuse, dit le texte. Alors va-t-elle ouvrir ? Non. On peut penser peut-être qu'à sa décharge, elle avait reçu l'ordre de ne pas ouvrir. Ça pourrait se comprendre. L'Église est dans une période de persécution, en plus c'est la nuit, peut-être qu'elle a reçu des consignes. Et au lieu d'aller ouvrir à Pierre, elle se précipite pour annoncer que Pierre est là, de l'autre côté de la porte. Alors, tout va rentrer dans l'ordre. Marie, la maîtresse de maison, va à son tour se précipiter, peut-être accompagnée de quelques frères au cas où, pour faire entrer Pierre qui continue à frapper à la porte. Pas du tout. La première réaction, ce n'est pas Pierre, tu es folle. Rode. Deuxième réaction, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Oui, j'ai lu que les Juifs croyaient que toute personne avait un ange gardien, ce qui est probable, mais que cet ange gardien restait sur terre quelque temps après le décès de la personne. Bref, visiblement, personne ne croit que Pierre est derrière la porte. De toute évidence, l'Église réunie priait pour la délivrance de Pierre, mais quand Pierre se présente à la porte, personne ne croit qu'il a été délivré et personne ne croit que l'Église a été exaucée. Et encore, le texte nous dit qu'ils ouvrirent finalement la porte, c'est moi qui rajoute finalement, qu'ils virent Pierre et qu'ils en furent étonnés. Ce qui prouve bien que les participants à la réunion de prière ont été longs à accepter l'idée que leur prière avait été exaucée. Alors l'épisode se termine, il est amusant, mais je crois qu'il est instructif pour nous aussi. Que pouvons-nous en retirer pour nous ? Alors à cet épisode amusant, je serais tenté dans un premier temps de répondre par un clin d'œil qui amusera aussi peut-être certains d'entre vous. Alors je dirais, pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué ? Voilà une église. Alors, ne lui jetons pas la pierre. Nous aurions probablement eu la même réaction. Voilà une église qui prie ardemment pour la délivrance de Pierre, dont la prière vient d'être exaucée, et qui se met à inventer des solutions compliquées et fausses, du genre « Rode est folle », du genre « C'est l'ange de Pierre qui tambourine à la porte », alors que la vraie solution est simple, l'Église a prié, elle a été exaucée, tout simplement. Plus sérieusement, ce qui précédait n'était qu'un clin d'œil. Plus sérieusement, ce texte nous pousse à donc demander au Seigneur de nous apprendre à reconnaître sans cesse sa main paternelle au travers des circonstances de notre vie, difficiles ou faciles. Ce texte nous met aussi en mémoire le verset 23 du psaume 50, qui affirme que celui qui offre sa reconnaissance rend gloire à Dieu et qu'il prend le chemin du salut que Dieu donne. Et ce texte nous exhorte, selon Hébreux 13, 15, à offrir en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Alors, l'épisode se termine sobrement au verset 17, que je relis. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de prison. Il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Et ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. Ouvrons une petite parenthèse, très courte. Il y a quatre personnes qui sont appelées Jacques dans le Nouveau Testament. On en a rencontré une, d'ailleurs, qui a été mise à mort, et le récit se trouve au début du chapitre 12. Qui est celle qu'il faut avertir de la délivrance de Pierre ? Eh bien, il s'agit probablement de Jacques, le frère du Seigneur, qui, incrédule du vivant de Jésus, était devenu, à cette époque-là, l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Et comme parenthèse dans la parenthèse, Jacques, celui dont je parle à l'instant, le frère du Seigneur, c'est aussi celui qui a écrit l'épître dite de Jacques. Voilà, fin de parenthèse. Alors, nous revenons maintenant au texte, et plus particulièrement aux versets 18 et 19, qui vont faire la transition vers la troisième et dernière partie. Ces versets nous ramènent vers le roi Hérode. Versets 18 et 19. Quand le jour se leva, il y eut un grand émoi, parmi les soldats. Où donc est passé Pierre ? Hérode le fit rechercher, et on ne le trouva nulle part. Alors il fit interroger les gardes, puis ordonna de les faire exécuter. Ensuite il quitta la Judée pour se rendre à Césarée, où il passa quelque temps. Alors, son projet d'arrêter Pierre, je parle d'Hérode, de l'emprisonner, de le faire comparaître, eh bien, vient d'échouer. Et dans ces circonstances, un trait de son caractère se révèle. Il donne l'ordre d'exécuter les gardes. Alors, d'après le verset 4, on a fait remarquer, ils étaient 16. Ce matin-là, Hérode donna donc l'ordre d'exécuter 16 personnes. Il se montre par cette décision comme un roi cruel. Et en plus, ensuite, il quitte la Judée pour se rendre à Césarée, où le texte dit « il passa quelque temps ». Et la banalité de cette phrase très ordinaire rajoute encore à la cruauté du personnage, à mon avis. Alors, nous abordons maintenant la troisième partie. Donc, il y a une nouvelle diapositive qui est peut-être déjà affichée, enfin, qui porte sur la troisième partie. Mais avant, disons que tout de suite, que le texte n'établit pas de lien de cause à effet entre la cruauté d'Hérode, que je viens de signaler, et sa mort soudaine et violente que nous allons découvrir. Or, Hérode n'a pas été puni pour sa cruauté, du moins ce n'est pas dit dans le texte. Et il va mourir, à mon avis, pour une toute autre raison. Alors, troisième partie, quatre versets. Verset 20. Or, Hérode était en conflit avec les habitants de Tyr et de Sidon. Ceux-ci décidèrent ensemble de lui envoyer une délégation. Après s'être assuré l'appui de Blastus, son conseiller, ils demandèrent la paix, car leur pays était économiquement dépendant de celui du roi Hérode. Au jour fixé, Hérode, revêtu de ses vêtements royaux, prit place sur son trône et lui adressa un discours en public. Le peuple se mit à crier « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un Dieu !» Et au même instant, un ange du Seigneur vint le frapper Hérode, parce qu'il avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui était dû. Dévoré par les vers, il expira. est écrit. Hein. Alors l'histoire que je viens de lire se commence d'une manière assez banale. Hérode est en conflit avec deux villes de sa juridiction, Tyr et Sidon. Ces villes se trouvent en Phénicie, c'est-à-dire un peu au nord de la Galilée, au bord de la mer Méditerranée. Les Tyriens et les Sidoniens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rapprochent d'Hérode pour lui demander un rendez-vous. Et au jour fixé, Hérode les accueille. Alors il s'est mis sur son 31, comme son rang l'exige. Il monte sur son trône et il adresse un discours à la délégation phénicienne. Alors que leur dit-il? On n'en sait rien. Et ça n'a aucune importance. Il nous suffit de savoir qu'à l'issue de son discours, la délégation phénicienne s'est écriée « Ce n'est plus un homme qui parle, c'est la voix d'un dieu. » Et à cet instant, tout se joue. Un ange du Seigneur frappe Hérode. Pourquoi? Parce que, dit le texte, Hérode avait refusé de rendre à Dieu l'honneur qui lui était dû. Et Hérode meurt, et meurt dans des conditions particulièrement horribles. Quelle histoire! Quelle histoire! Hérode se laisse acclamer comme s'il était un dieu. Il ne proteste pas en rappelant qu'il est un simple homme. Et au même instant, un ange du Seigneur le frappe. Pourquoi cela? Ce n'est pas dit explicitement. Je fais une hypothèse. À vous de la prendre ou de la laisser. Je fais l'hypothèse qu'Hérode était un homme orgueilleux. Même si le mot ne figure pas dans le texte. Un homme peut-être démesurément orgueilleux, un homme qui avait peut-être manifesté déjà un orgueil démesuré dans d'autres circonstances, ou peut-être seulement ce jour-là, on ne sait pas. Peut-être on se dit, peut-être le pensez-vous, depuis le début du chapitre 12, on sait qu'Hérode avait entrepris de persécuter l'Église, et on pourrait donc penser que la mort si étrange et si soudaine d'Hérode était une forme de châtiment que Dieu lui avait envoyé sur ce persécuteur. Ce n'est pas impossible, mais le texte ne le dit pas explicitement, ni ici, ni me semble-t-il ailleurs. Et pourtant, ce récit, qui est clair dans le livre des Actes, a été en plus authentifié par des historiens. Flavius Joseph, qui a vécu au 1er siècle, attire l'attention sur le caractère soudain et curieux de la mort de cet homme, Hérode Agrippa Ier. Alors de ce récit, que pouvons-nous retenir pour nous? Oublions l'aspect historique. Ne retenons que l'attitude d'Hérode. Alors, si l'hypothèse que j'adopte est correcte, ce récit constitue pour nous une mise en garde solennelle contre l'orgueil. Jacques, celui dont on vient de parler il y a quelques minutes, met dans sa lettre en garde contre l'orgueil qui se manifeste, dit-il, dans des projets présomptueux. Présomptueux, allons voir la définition, ça veut dire marqué par l'orgueil, qui affirme que tout orgueil de ce genre est mauvais. Et notre vie étant, dit-il, une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe vite, Jacques nous recommande de remettre notre vie entre les mains du Seigneur et de dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Sommes-nous à l'abri de l'orgueil? Eh bien, probablement pas. Souvenons-nous de l'apôtre Paul, qui en 2 Corinthiens 12, 7 écrit « Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. » Et ce que Paul considère comme valable pour lui, eh bien, crois qu'on peut dire qu'il est aussi valable pour nous. Soyons vigilants quant à l'orgueil qui peut se manifester dans nos actes. Alors le chapitre se termine quand même par une note positive au verset 24. La parole de Dieu se répandait toujours plus. La persécution s'accompagne souvent de l'essor de la bonne nouvelle. Nordine l'a signalé dimanche. Je ne sais plus s'il l'a dit au cours du culte ou au cours de la réunion de l'après-midi, mais il a clairement signalé, je crois que c'était plutôt l'après-midi, que la persécution s'accompagne de l'essor de la bonne nouvelle, du développement de la bonne nouvelle, de la propagation de la bonne nouvelle. Et ce fut le cas, donc, à ce moment-là et à d'autres moments dans le livre des Actes. Verset 24, « Mais la parole de Dieu se répandait toujours plus. » Nous en restons là. Je vous propose que d'incliner nos têtes et de repasser dans nos mémoires, dans nos pensées, un certain nombre d'éléments que nous avons rencontrés ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire selon la justice. Nous te remercions pour ce chapitre que tu as placé devant nos yeux et qui nous enseigne quelques éléments de la vie de l'Église apostolique. Nous te prions pour que tu fasses vivre ta parole dans nos vies personnelles, nos vies familiales, notre vie d'église, notre vie sociale, là où tu nous as placés. Nous t'adorons pour ta toute-puissance et parce que rien ne t'est impossible. Et nous te prions pour que tu nous apprennes chaque jour un peu mieux à discerner ta présence à nos côtés et ton action dans nos vies, dans toutes les circonstances, ordinaire et extraordinaire. Nous te prions de nous apprendre à reconnaître sans cesse ta main paternelle au travers des circonstances de notre vie, difficiles ou pas. Nous te remercions parce que du haut du ciel, tu entends nos prières et nous te prions justement pour que tu nous gardes dans la reconnaissance pour ce que tu fais pour nous et pour les nôtres. Nous te prions encore pour que tu nous gardes de l'orgueil qui peut pourrir une vie. Nous te prions, comme le dit le prophète, que tu nous fasses la grâce de vivre humblement avec toi sur le chemin que jour après jour tu traces devant nous. Amen.